les podcasts de Radio Vatican.
La délégation catholique pour la coopération, la DCC, fête ses 50 ans. À cette occasion, le pape François a adressé un message d'encouragement samedi 25 février 2017 à une trentaine de membres de ce service de l'Église de France. Le Saint-Père les a appelés à construire des ponts entre les hommes et les peuples et à continuer de s'inspirer de l'encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI, qui a elle aussi 50 ans. La DCC a été créée en 1967 lorsque l'État français a demandé à l'Église de France d'avoir une seule interface pour l'envoi de nombreux coopérants qui partaient notamment accompagner le développement des ex-colonies. Depuis, la DCC a encadré 20 000 volontaires. Encore aujourd'hui, ils sont chaque année quelques centaines, en majorité des jeunes, à apporter leur expérience professionnelle dans plus de 50 pays différents. Monseigneur Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul, est évêque accompagnateur de la DCC pour la Conférence des évêques de France et à ce titre vice-président de la DCC. Il revient sur l'origine du projet et sur sa propre expérience de volontaire.
L'intuition à cette époque-là, c'était dans la perspective qui avait été notamment ouverte par le pape Paul VI avec l'encyclique Populorum Progressio, que les chrétiens ne soient pas à l'écart de ce grand mouvement de coopération qui visait à aider ces jeunes pays, alors notamment d'Afrique, surtout d'Afrique à ce moment-là. Ensuite, la palette s'est élargie à se développer, à prendre en main leur propre développement. Parce que c'est cela qu'il y a à l'origine, enfin, de l'intuition de la DCC. Il ne s'agit pas simplement d'apporter une aide dans laquelle il y aurait ceux qui apporteraient et les autres qui recevraient une aide, mais de faire en sorte que ceux à qui on apporte une aide deviennent les acteurs de leur propre développement. Et cette intuition est toujours d'actualité.
Et peut-être encore plus aujourd'hui, on a une élection présidentielle en France, on a le thème du nationalisme, le repli sur soi qui prend une grande part. Dans ce contexte-là, c'est encore très important, c'est peut-être encore plus d'actualité.
C'est plus d'actualité, comme vous dites. On est dans un contexte de repli sur soi, de nations qui se referment sur elles-mêmes. On le voit même au plan européen. C'est tout l'inverse de ce que promeut la DCC, hein, qui, au contraire, prône l'ouverture, l'échange culturel, le dialogue pour tisser des liens entre les populations de continents différents, permettent ainsi que s'établisse, se développe ce que j'appellerais la fraternité universelle qui est au cœur de l'Évangile.
Donc on voit que l'intuition reste la même. Pourtant, le monde a bien changé depuis 50 ans. L'approche humanitaire aussi. Comment est-ce que la DCC a accompagné cette évolution? Comment est-ce qu'elle a peut-être elle-même évolué à ce contact? Et les évêques, comment ont-ils accompagné aussi la DCC pour qu'elle puisse s'adapter à ces changements?
Les évêques continuent à soutenir la DCC. Ceci dit, je pense que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de cette association. C'est pourquoi d'ailleurs, à la prochaine Assemblée plénière des évêques, nous allons avoir une séquence de travail sur la DCC, plus largement le volontariat de solidarité internationale dans l'Église. Des évolutions, il y en a eu depuis la fondation. Moi-même, j'ai été jeune volontaire. Je suis allé en Centrafrique, République centrafricaine. J'y suis allé, comme la plupart d'ailleurs des coopérants à l'époque, comme enseignant. Et d'ailleurs aussi, c'était dans le cadre du service national qui était obligatoire. Nous pouvions choisir entre le service militaire ou la coopération. Et depuis, le profil des volontaires a beaucoup changé. Les volontaires qui partent ont des compétences multiples, hein. Alors soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine de l'ingénierie, de la construction, dans le domaine de l'enseignement, bien sûr, et puis dans quantité d'autres domaines qui sont utiles pour le développement des populations. Il y a encore eu d'autres évolutions.
Vous avez dit que vous aviez fait l'expérience d'être volontaire vous-même. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement?
Alors, pour moi, ça a été d'abord une expérience extraordinaire d'ouverture sur un monde qui n'était pas du tout le mien. Je viens d'une région de l'ouest de la France qui était assez fermée, je dirais. Et puis, dans mon itinéraire personnel, je n'avais jamais quitté ma région. Et voilà que tout d'un coup, je suis transporté à 5000 km de chez moi dans un monde tout à fait différent. Et puis aussi dans une problématique ecclésiale et d'annonce de l'Évangile que je ne connaissais pas parce que je vivais tous les jours avec des pères spiritains. La deuxième expérience que j'ai faite, c'est celle de la mission. Qu'est-ce que c'est que d'annoncer l'Évangile à des personnes qui ne le connaissent pas ? Autre expérience pour moi, c'est l'expérience de l'inculturation. Comment incarner la foi de l'Église dans des cultures qui sont différentes. Et ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que nous vivons dans des évolutions en Europe et dans notre pays, la France, des évolutions culturelles extrêmement importantes et de plus en plus rapides. Alors, d'avoir expérimenté déjà quelque chose de l'inculturation, pour moi, c'était extrêmement utile pour le ministère à venir. Cette expérience a été et demeure fondatrice dans mon itinéraire. Je ne suis pas revenu comme j'étais parti. Et ça a contribué à réenraciner ma vocation de prêtre de façon plus réfléchie. Jusqu'alors, j'avais été comme sur des rails, puisque j'avais annoncé à mes parents que je voulais être prêtre, j'avais 8 ans. Et bon, j'avais suivi la filière sans aucun problème. Et voilà que tout d'un coup, dans cet itinéraire qui était en ligne droite, il y a comme une césure, une rupture qui se produit, qui a été même à un moment comme une crise, parce que je ne savais plus si je voulais vraiment être prêtre. J'expérimentais la profession d'enseignant, qui me plaisait beaucoup. Et c'est au retour, avec un temps de relecture, avec mon accompagnateur spirituel, etc., que ma vocation s'est réenracinée en intégrant l'expérience que je venais de faire.
La DCC rejoint beaucoup des thèmes qui sont chers à l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres, la défense de la maison commune, des thèmes aussi qui sont peut-être plus mis en valeur encore par le pape François. Donc il y a ce thème de l'environnement, il y a celui de la rencontre, il y a l'action pour les migrants. Est-ce que vous vous sentez conforté justement par cela, par le pape actuel ?
Je pense que si le pape a accepté de nous recevoir, c'est que ça correspond à quelque chose pour lui, enfin que l'intuition et l'action menée par la DCC correspondent à des convictions qui sont très fortes chez lui. Et de fait, à la DCC, nous nous reconnaissons dans quantité de paroles, de discours qu'il prononce, je dirais presque à toutes les lignes. Enfin, quand il dit, il prône une église en sortie, une église de la rencontre, du dialogue, une église engagée vis-à-vis des plus pauvres, etc. Et en particulier, quand il interpelle les jeunes pour qu'eux-mêmes, en quelque sorte, à la manière d'Abraham, puisqu'il cite Abraham, quittent leur pays pour une terre nouvelle. Et cette terre nouvelle, comme il dit, quelle est-elle ? C'est celle de la fraternité universelle. Donc, oui, la DCC se trouve tout à fait confortée par le pape François.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.